VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Coup d'État manqué au Gabon. L'Union africaine a fermement condamné la tentative de putsch ce matin dans le pays, menée par une poignée de soldats, alors que le président Ali Bongo Ondimba, malade, est absent depuis 2 mois et demi pour cause d'accident vasculaire cérébral et que le gouvernement n'assure plus que les affaires courantes. La France aussi condamne ce qui s'est passé à Libreville et appelle au strict respect de la constitution gabonaise. Pour la première fois dans l'histoire du Gabon, un groupe de militaires est apparu aujourd'hui à la radio-télévision nationale appelant à un soulèvement et annonçant la formation d'un Conseil national de restauration de la démocratie. Le message appelant l'armée et la population à se soulever a été lu par un militaire qui s'est présenté comme le lieutenant Ondo Obiang-Kelly, commandant adjoint de la garde républicaine. Il s'est dit président d'un mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, jusque-là inconnu. Quelques heures plus tard, le calme est revenu et la situation est sous contrôle, affirme le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Guy Bertrand Mapangu. Il a précisé à l'AFP que sur un commando de 5 militaires ayant pris le contrôle de la radio-télévision gabonaise, la RTG, 4 ont été arrêtés et 1 est en fuite. Les forces de sécurité sont déployées dans la capitale et elles le resteront pour les prochains jours afin de maintenir l'ordre, a précisé le ministre Mapangu, en soulignant que les frontières du pays restent ouvertes. Internet est toutefois coupé à Libreville. Élections en République démocratique du Congo maintenant. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante supervisant les récents scrutins dans le pays, n'a pas pu annoncer les résultats provisoires des élections comme prévu dimanche 6 janvier. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a expliqué en personne les raisons de ce retard. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes à 53% de compilation des résultats. Le travail n'est pas terminé. Impossible donc d'annoncer les résultats ce dimanche comme prévu a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa a maintenu davantage le flou en affirmant ne pas pouvoir dire quand les résultats provisoires seront disponibles. Peuple congolais, soyez calme. J'entends dire par chacun des camps qu'ils sont en tête, mais cela n'a aucune valeur car seule la CENI peut publier les résultats. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner les vrais résultats. Le peuple sera content d'avoir ce résultat, a par ailleurs précisé puis promis le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa, qui annonce également être l'objet des menaces nationales et internationales, déclare qu'il n'acceptera aucune menace et demande de laisser le travail de la CENI se faire en toute indépendance. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Cameroun, les avis divergent après la formation de nouveau gouvernement vendredi dernier. Les Camerounais rencontrés à Yaoundé, la capitale, sont notamment partagés sur le maintien de certaines personnalités dans l'équipe gouvernementale. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Après le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun, de nombreux Camerounais avaient demandé des sanctions contre les responsables de cet échec. Mais le président Paul Biya n'a pris aucune sanction contre les présumés responsables en formant le gouvernement le 4 janvier dernier. Alvin Henry Assembendi est membre de la sous-commission communication du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Elle explique ce choix du président Paul Biya.
Au niveau du RDPC, nous avons parlé de glissement, nous n'avons pas parlé de perte. Les responsabilités n'ont pas encore été indiquées. Nous pensons que si commission d'enquête il y aura, on attendra les résultats et après les coupables paieront.
Un point de vue que de nombreux Camerounais ne partagent pas. Salomon, par exemple, est un jeune employé du secteur privé à Yaoundé. Pour lui, ce premier gouvernement d'après élection présidentielle du 7 octobre dernier ne répond pas aux attentes du peuple.
Vu le contexte dans lequel s'est déroulée les élections présidentielles au Cameroun, pour un début de mandat, l'option du réaménagement est véritablement frustrant. On a l'impression que certaines personnes dont le peuple voulait la tête sont restées au gouvernement. Ce qui donne l'impression aux Camerounais que finalement, il n'y a rien à attendre de cette nouvelle équipe.
Par ailleurs, aucun membre de l'opposition n'a fait son entrée dans ce nouveau gouvernement. Pas même le candidat du parti Univers lors du scrutin présidentiel d'octobre dernier. Cabral Libi a tout simplement décliné l'offre selon son directeur de campagne, Armand Okol.
Je vous confirme qu'il a été consulté à plusieurs reprises. Il a simplement rejeté pour deux raisons au moins. Quand on voit la manière avec laquelle le gouvernement fonctionne, on n'a pas le sentiment qu'on peut avoir les mains libres à implémenter sa vision à soi. La deuxième des choses, c'est qu'il est porteur d'un projet de société, ne cadre pas avec la manière dont les choses sont faites.
Le nouveau gouvernement du Cameroun compte plus de 60 membres. Il entre en fonction dès ce lundi, soit plus de deux mois après la prestation de serment du président Paul Biya. Joseph Dion Nguté, premier ministre, est un homme heureux. Quelques minutes après sa désignation, il a fait cette brève déclaration à la presse.
Quand le chef de l'État m'a convoqué, il m'a dit qu'il m'avait choisi comme son prochain premier ministre. Évidemment, j'étais très ému, sachant que la tâche est vraiment difficile, c'est élevé, mais je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour que le chef de l'État soit satisfait de ma prestation.
Yaoundé, Emmanuel Jiruntap, VOA Afrique.
Au Soudan, des supporters du président soudanais Omar al-Béchir prévoient de tenir mercredi un rassemblement pro-régime dans la capitale Khartoum, alors que la police a dispersé dimanche à coups de gaz lacrymogène des manifestations anti-gouvernementales dans plusieurs villes du pays. Le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation déclenché par la hausse du prix du pain et les pénuries dans un pays en plein marasme économique. Les protestations se sont vite transformées en un mouvement contre le régime du président Omar al-Béchir, qui s'est emparé du pouvoir par un coup d'État en 1989. Au moins 19 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation, selon les autorités soudanaises. Amnesty International, pour sa part, fait état de la mort de 37 manifestants. Et l'ONU appelle à une enquête indépendante sur les violences.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité américaine maintenant, des responsables militaires américains ont confirmé la mort dans une frappe aérienne la semaine dernière au Yémen de Jamal al-Badawi, un des serviteurs présumés de l'attentat contre le USS Cole, un navire de guerre américain, attaque qui avait coûté la vie à 17 marins américains en l'an 2000. Dans un tweet hier, le président Donald Trump a déclaré que l'armée américaine a rendu justice aux héros tués et blessés dans la lâche attaque contre le USS Cole. Il a assuré que la lutte des États-Unis contre Al-Qaïda se poursuivra. Par ailleurs, le conseiller américain pour la sécurité nationale, John Bolton, a affirmé dimanche à Jérusalem que le retrait américain de Syrie devrait se faire de telle sorte que la défense d'Israël et d'autres amis de Washington dans la région soit absolument assurée. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
En visite en Israël depuis samedi, M. Bolton a annoncé que les États-Unis souhaitaient que la Turquie garantisse la protection des Kurdes en Syrie, selon la chaîne de télévision américaine NBC News. Nous allons discuter de la décision du président Donald Trump sur le retrait, mais il faut faire cela de telle sorte que l'organisation de l'État islamique soit défaite et que la défense d'Israël et d'autres amis dans la région soit absolument assurée, a affirmé M. Bolton aux médias à l'occasion d'entretien avec le premier ministre israélien Benjamin Yamin Netanyahou. M. Bolton a également souligné que le retrait militaire américain de Syrie annoncé le mois dernier par le président Trump tiendra également compte de ceux qui ont combattu avec nous contre l'organisation de l'État islamique et d'autres groupes terroristes. Le conseiller du président Trump avait auparavant affirmé que des conditions devaient être réunies avant le retrait des troupes américaines de Syrie, telles que la sécurité de leurs alliés kurdes. Jusqu'ici alliés de Washington dans la lutte contre les djihadistes, les combattants kurdes en Syrie craignent que le retrait américain ne les laisse démunis face à la Turquie.
Et pour terminer, ici à Washington, toujours pas de fin de shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales. Le président Donald Trump a réaffirmé dimanche sa volonté de construire un mur à la frontière avec le Mexique, reconnaissant qu'il ne s'attendait pas à une avancée de taille lors des discussions menées dimanche sous l'égide du vice-président Mike Pence. Le chef de l'exécutif américain a annoncé des discussions de fond à venir qui auront lieu lundi, mardi et mercredi. Et il a de nouveau évoqué la possibilité d'avoir recours à une procédure d'urgence lui permettant de contourner le Congrès dans cette affaire de mur. Merci de votre attention.